Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et bonjour, vous êtes sur Divergence FM avec Lecture par tous. Lecture par tous qui reçoit aujourd'hui l'auteur d'un premier roman, Charles Aubert. Bonjour Charles Aubert.
Bonjour Marc.
Voilà, un premier roman qui s'appelle Bleu Calypso, qui est publié chez un petit éditeur par la taille, mais grand par les ambitions certainement, et puis grand par la tradition, chez Statkin et compagnie. Alors je dis grand par la tradition parce que c'est une émanation d'un éditeur genevois célèbre, Statkin, tout court, sans compagnie, hein, qui a un éditeur bien connu et des bibliophiles et des lecteurs. Alors, Bleu Calypso, on va en venir à ce que ça raconte, Bleu Calypso. Mais d'abord, Charles Aubert, comment on vient comme ça, l'écriture, une fois arrivé à la cinquantaine, tout d'un coup, on se plonge dans l'écriture. Quelle bizarre...
Alors, c'est une longue histoire.
Ouais, c'est une longue histoire. Ouais, on va la faire brève.
Ouais, donc en fait, arrivé à la cinquantaine, on se plonge pas d'un seul coup comme ça dans l'écriture. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pas ce qui s'est passé. Avant d'écrire, je suis avant tout un lecteur. Je pourrais me définir plutôt même comme un lecteur qui écrit. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire, et depuis mon enfance pratiquement, et je me suis construit à travers les lectures que j'ai pu avoir. Donc, en lisant beaucoup, automatiquement est venue rapidement l'envie d'écrire. Donc, c'est une envie que j'ai depuis très longtemps, que j'ai commencé à faire quand j'étais jeune adulte, puisque j'ai écrit un premier manuscrit, mais que j'ai envoyé à aucun éditeur. Je trouvais qu'il n'était pas à la hauteur. Mais j'ai continué d'écrire des nouvelles, j'ai continué d'écrire pour des journaux, des petits articles. Et puis après, c'est arrivé aujourd'hui à un roman, quoi, tardivement, mais à un roman qui est paru chez Slatkin & Company.
Alors, on va dire, sans faire la biographie, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le livre plus que la vie de son auteur. Mais quand même, on peut dire quelque chose, parce qu'il y a pas mal de l'auteur dans le personnage principal, j'ai l'impression. Y a eu un choix de changer de vie, pas simplement de passer à l'écriture. Parce que si j'ai bien lu les éléments biographiques, des études de droit, une activité de commercial dans une mutuelle d'assurance, mutuelle des motards, pour ne pas la nommer. Et puis tout d'un coup, ça suffit tout ça, changement de vie, installation...
Tout à fait.
Au sud de Montpellier, oui, au bord des étangs.
Ouais, ouais, ouais. C'était le besoin, effectivement, au-delà de changer de vie, de me rapprocher de la personne que je suis au plus profond de moi, en fait. Hein. Donc, j'ai mené une carrière, comme tu le disais, dans les assurances, une carrière qui m'a rendu parfaitement heureux. Hein. C'était des métiers très intéressants, qui m'ont permis de rencontrer des gens passionnants. Mais j'ai ressenti, aux alentours de vers la fin de la quarantaine, le besoin de partir sur une activité différente, sur un rythme de vie différent, et comme je le disais précédemment, de me rapprocher un peu plus de qui j'étais vraiment. Donc un rapport plus proche de la nature, et vivre aussi une vie plus en rapport avec les valeurs que je pouvais avoir.
Alors, plus proche de la nature, c'est Bleu Calypso. Alors, un petit peu, qu'est-ce que c'est ce Bleu Calypso? Parce que dans la nature, on y est dans Bleu Calypso.
On y est, oui, tout à fait. C'est un roman policier. Donc, mon éditeur parle de polar doux, dans le sens que c'est un roman policier avec toutes les codes du roman policier, mais c'est pas un thriller, c'est pas un roman violent non plus. Alors, il y a bien évidemment des meurtres, hein, c'est un petit peu une figure imposée, mais ça reste un polar doux, et notamment, comme tu l'évoquais, qui parle de la nature aussi, qui parle de plusieurs thèmes, donc le rapport à la nature, le rapport au travail aussi, le changement de vie, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un petit peu abordé à travers le roman. Et donc ce rapport à la nature, effectivement, est très important, puisque c'est un petit peu un livre qui se met un petit peu dans la lignée de cette littérature un petit peu américaine qui parle de nature. Et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu écrire.
Oui, alors on a fait référence à la littérature américaine. Oui. La pêche est centrale dans ce roman.
Tout à fait, oui.
Le personnage principal est fabricant de leurres pour les pêcheurs et des pêcheurs éthiques, on va dire.
Oui, hein, puisqu'ils ils relâchent leur proie, effectivement. Voilà. Ouais, donc ils sont aussi écologistes.
Et du coup, en le lisant, moi, ça me faisait penser, même si je ne la connais pas très bien, à toutes ces traditions littéraires américaines de la, on pourrait dire, de la littérature de pêche. Oh. C'est quelque chose que tu...
Oui,
qui te, alors, t'intéresse.
Oui, tout à fait. J'ai lu, bien sûr, je suis très inspiré par la littérature américaine, donc d'Hemingway à Kerouac, en passant par Melville. Et dans la littérature de pêche, effectivement, un auteur comme John Guérac aussi, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu. Voilà, la pêche, c'est un des éléments du roman. C'est ce qui permet au personnage principal, justement, de se ressourcer et d'évoquer justement ce rapport à la nature.
Alors oui, moi je pensais à un roman qui s'appuie aussi sur ça dans le roman américain, qui est la pêche à la truite en Amérique de Brautigan.
De Brautigan, oui.
On prenait un café ensemble avant de venir enregistrer cette émission. Tu nous disais que Brautigan était un des auteurs importants.
Oui, oui. Bon, il y en a beaucoup des auteurs qui m'ont construit, comme je disais tout à l'heure. Et Richard Brautigan en fait partie, bien évidemment. Et notamment à travers Tokyo Montana Express. C'est le livre de Richard Brautigan que je préfère. Donc oui, effectivement, il fait partie de toute cette palanquée d'écrivains américains, mais aussi français, européens, qui m'ont construit. C'est vrai, effectivement, ça, c'est indéniable.
La palanquée, on reste dans des termes qui désignent, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si je ne me trompe pas, c'est le groupe de plongeurs qui plongent ensemble.
Ça. Hein, ouais,
c'est ça.
Fait, ouais.
Voilà, par sécurité, on ne plonge jamais tout seul.
Non,
voilà.
Il vaut mieux pas.
Alors, donc Bleu Calypso, bah c'est le nom de baptême d'un leurre que fabrique le personnage principal, Nils, et qui lui permet d'attraper des loups.
Des loups, tout à fait. Nils donc a changé de vie, bon, un petit peu comme je l'ai fait moi-même, hein, puisque donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis passé d'un métier où j'étais en rapport avec des dizaines de personnes, hein. J'étais manager donc, dans une compagnie d'assurance, à un métier, aujourd'hui je suis artisan, je fabrique des bracelets montres, donc j'ai créé mon atelier et je travaille seul. Donc Nils a fait un petit peu le même chemin, puisqu'il lui aussi donc, a quitté un métier dans les assurances, pour s'installer et lui fabriquer des leurres pour la pêche.
Oui, il y a des scènes, on le voit à son établi, et on se dit que l'auteur qui raconte ça en a l'expérience lui aussi.
Oui, alors quand on écrit, ouais, effectivement, quand on écrit, on s'inspire forcément de certains éléments de sa vie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ça m'est difficile de parler de choses que je ne connais absolument pas. Donc, effectivement, il y a des points communs entre la vie de Nils et la mienne. Alors, juste quelques points communs, hein, je précise. Hein, moi, j'ai jamais...
Ce n'est pas autobiographique.
Non, c'est pas autobiographique, j'ai jamais trouvé de cadavre dans
alors,
les
voilà.
étangs.
Du coup, ça nous permet...
Dieu m'en garde.
Ça nous permet d'évoquer un peu le point de départ de cette histoire. Comme c'est un policier, on va juste donner le point de départ, parce que au lecteur de découvrir, on ne va pas dévoiler les choses. Donc, Nils va pêcher.
Donc, effectivement,
son nouveau leurre.
Voilà, le roman commence comme ça, en fait. Et donc, il est adepte de la pêche en kayak sur les étangs salins. Donc, les étangs salins qui se trouvent autour de Montpellier, que vous connaissez tous. Et au cours d'une de ces parties de pêche, il trouve dans les eaux de l'étang un corps. Voilà, donc l'histoire commence comme ça. Et ça va le conduire dans une histoire dans une enquête policière qu'il va mener en compagnie d'une jeune femme qu'il va rencontrer. Donc il y a aussi une histoire d'amour qui traverse ce roman. Quelque part, l'intrigue, comme je disais tout à l'heure, est un alibi pour parler de plein de choses. Donc je l'ai dit tout à l'heure, de rapport à la nature, de rapport au travail. Je parle aussi d'amour, d'une histoire d'amour. Je parle aussi d'amitié, puisqu'il y a il y a des relations d'amitié assez fortes
avec le vieux Bob,
entre divers personnages qui traversent ce roman. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais écrire, en fait. Voilà, au-delà de l'histoire policière.
Voilà. Alors, sans dévoiler, il y a très fort contraste entre les personnages. C'est pas lui qui mène l'enquête, il est embarqué dans une enquête par une jeune journaliste qui arrive de la capitale.
Voilà, Lizzie. Lui, il est plutôt quelque part, il a un côté, il est un petit peu misanthrope, quoi. Il s'est un petit peu, il a pris du recul par rapport à la société moderne. Il essaye vraiment de quelque part de se ressourcer, de se retrouver. C'est un petit peu une pause, un répit dans le courant de sa vie, cette installation à Villeneuve-les-Maguelone. Et c'est bien malgré lui qu'il est embarqué dans cette histoire policière. Et lui, quelque part, il va suivre un petit peu la fougue de Lizzie. Lizzie, qui est la jeune femme qu'il va rencontrer au cours du roman.
Voilà. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y a eu... il y a pas mal de personnages. Hein. On évoquait Lizzie, on a son ami qui est aussi un cabanier, comme on les appelle, hein, vieux Bob. Et puis, alors, il y a quelque chose, c'est que tous les personnages... Bon, c'est peut-être classique dans un roman policier, mais là, je trouve que c'est bien mené, vont se découvrir autre chose que ce qu'ils sont au début. On va les découvrir, ils vont se révéler petit à petit. Le personnage principal va être en espèce de retour en arrière. Il est rattrapé un petit peu par son passé. Et en même temps, il franchit une étape, il va devenir peut-être ce qu'il rêvait de devenir, qu'il n'osait pas rêver. Mmh. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une attention portée au choix des noms des personnages.
Oui, bon, après le choix des noms, c'est compliqué de connaître la genèse du choix du nom. Quelque part, il s'impose un petit peu. Moi, j'ai un peu l'impression, en tout cas pour moi, ça a été comme ça. Ils se sont un petit peu imposés à moi comme ça, en fait. Un petit peu comme l'histoire aussi. C'est-à-dire que je commence l'histoire, je connais le début, je connais la fin. Et ce qui se passe au milieu, c'est un petit peu les personnages qui vont me le faire découvrir. Je suis un petit peu dans cette... en tout cas, moi, je procède de la sorte. Donc, les noms des personnages se sont pratiquement imposés à eux-mêmes aussi. J'aurais du mal aujourd'hui à expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi tel ou tel nom.
D'accord.
C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est vrai.
Non, c'est pas, y a rien de bizarre. Hein. C'est justement découvrir un petit peu comment ça se construit, cette affaire-là. Alors, il y a quelque chose, moi j'ai trouvé... est-ce qu'il y a eu des allers-retours avec un éditeur, avec des lecteurs comme ça, qui proches, qui accompagnent l'écriture? Il y a quelque chose de très construit dans le rythme, c'est-à-dire qu'on a vraiment... on a des chapitres courts.
Oui.
Et puis... on n'a jamais le temps, on prend le temps, mais on n'a pas le sentiment de perdre du temps, en tout cas, moi comme lecteur, c'est le sentiment que j'ai eu. Et puis on va voir un emballement sur la fin, comme ça, où voilà, on va arriver au climax du roman, et puis on va avoir la résolution avec un épilogue. J'ai trouvé bien aussi, des fois les épilogues, on se dit c'est du rajout, non, là j'ai trouvé que c'était bien. Alors comment ça s'est travaillé, cette question du rythme, est-ce que c'est lié au rythme de l'écriture ou est-ce que...
Oui, c'est le rythme de l'écriture. En fait, moi, j'essaye d'écrire tous les jours, en fait. Donc, je m'astreins à une sorte de règles, c'est-à-dire je me lève tous les matins très tôt et j'écris pendant 3 heures. Voilà, pendant 3 heures. Après, je vais faire du sport et après, je me mets derrière mon établi et je commence ma journée de fabricant de bracelets-montres. Donc, en écrivant tous les jours, en s'astreignant à cette discipline, ça peut me permettre justement de pouvoir garder le fil, de conserver le fil de l'intrigue et justement de travailler justement dans ce sens de proposer une intrigue serrée et qui se tienne. Alors après, moi j'ai l'habitude, j'écris tout le roman d'un seul coup et ensuite je le fais lire à mes proches dans un premier temps, donc mon épouse, mes enfants, Antoine et Coba, et donc à mon éditeur, hein, puisque donc j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Donc et après c'est ça s'appelle les corrections, hein, donc c'est un échange avec l'éditeur que j'ai eu avec Henri Beauvais, donc mon éditeur.
D'accord.
Et qui dure pendant plusieurs semaines, où justement, il va me dire, tiens, tel personnage, il faudrait peut-être un petit peu plus le travailler, ou tel passage, voilà. C'est de cet ordre. L'auteur garde le final cut, en tout cas, c'est comme ça que ça se fait chez Slatkin & Company, donc ce qui est fort appréciable. Et voilà.
C'est combien de temps de travail?
Alors, c'est une année. Enfin, moi, c'est difficile de le quantifier, mais en tout cas, le processus d'écriture donc, dure plusieurs mois, on va dire peut-être 6 mois. Après, il y a tout le processus des corrections et des relectures, en sachant que c'est entrecoupé de phases où on prend un petit peu du recul par rapport au manuscrit, parce que sinon, on n'arrive plus justement à le lire, on n'arrive plus à le voir, hein, on a trop le nez dessus. Donc il y a des moments de coupure. Et donc après, il y a tout le processus de fabrication du livre, hein, donc de choix de la couverture. C'est aussi un processus dans lequel l'auteur est impliqué. En tout cas, chez Slatkin & Company, ça se passe comme ça. Donc il faut compter une année.
Une année de travail. Oui. Alors... Il y a autre chose, on évoquait, il y a une histoire d'amour aussi, oui. il y a la nature, il y a tout ça. Je me suis dit, bon, c'est un livre qui est plusieurs livres en même temps, y compris une anthologie de haïku.
Oui.
C'est donc haïku, pour ceux qui ne situent pas, c'est très courts poèmes qui sont de la tradition japonaise.
Ça fait, ouais, oui.
Hein, ce sont des poèmes, il y a trois lignes. Alors c'est très, la rythmique en japonais est très très précise.
En fait, c'est
et là,
17...
on a un haïku en exergue de chaque chapitre.
Fait.
Donc, on a une quarantaine de chapitres, si je me souviens bien.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais, je crois.
Et chaque fois...
Il y a un haïku.
Il y a un petit haïku.
Tout à fait. Le haïku, donc, c'est un poème japonais. C'est 17 syllabes découpées en 3 séquences de 5, 7 et encore 5 syllabes. C'est toujours en lien avec la nature, notamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui est important pour moi. J'écris moi-même des haïkus. Mais les haïkus, là, qui sont dans Bloc Ellipso, ce ne sont pas les miens. Hein, ce sont ceux d'auteurs japonais, mais qui donnent un petit éclairage sur le chapitre qui va venir. Voilà. Et c'est vrai que j'y tenais beaucoup parce que c'est une culture que j'aime beaucoup parce que ça parle de l'épure, ça parle justement de la nature, comme je le disais précédemment. Et ce sont des éclairs de poésie, quoi. C'est quelque chose sur lequel aussi je me suis beaucoup construit. Donc toute cette culture japonaise et notamment ces haïkus.
Voilà, hein, on peut en lire un tout petit. Là, j'ouvre au hasard. Hein, y en a... C'est ce que j'aime bien avec votre livre, c'est que voilà, on peut l'utiliser aussi comme une anthologie de haïku. Là, c'est celui qui en exergue du chapitre 2. 1000 petits poissons blancs, comme si frétillait la couleur de l'eau. Voilà, au début du roman.
Je peux en citer un autre que j'aime beaucoup aussi, qui est de Yamaguchi Sodo. Ce printemps, dans ma cabane, absolument rien. Absolument tout. Vous voyez, donc un haïku, en quelques syllabes, en trois phrases, ça donne une ambiance, ça crée une ambiance, ça parle de quelque chose, voilà, ça peut être la brièveté de la vie, ça peut être le vol d'un oiseau, donc la floraison d'un cerisier. Donc voilà, tout ça, c'est de la poésie. Moi, ça me touche particulièrement. Je pourrais, là, une nouvelle fois, je ne pourrais pas vous expliquer d'où ça vient. C'est certainement des lectures anciennes que j'ai eues et parce que je pense qu'on se construit beaucoup par rapport à ces lectures, les lectures qu'on a eues quand on était enfant ou adolescent. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Mmh. Et je pense que c'est des, des, des choses que j'ai attrapées à ce moment-là.
Bah, dans les auteurs, vous faisiez référence à Kerouac tout à l'heure.
Oui, Kerouac.
Et
ouais.
Il me semble que Kerouac était aussi amateur de haïku. Ah, j'ai le souvenir, il me semble que c'était lui où il citait un haïku dans un de ses romans.
Alors,
c'était très gelé, qui disait le moineau sautille sur la terrasse, il a les pattes mouillées.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Et, il me semble que, voilà, qu'il était aussi...
C'est aussi quelque chose qui permet d'exercer son regard aussi, son attention, qui permet justement de profiter pleinement de la vie, c'est-à-dire de profiter de chaque moment, d'essayer de saisir chaque instant au vol et de ne pas le laisser passer, d'être présent à sa vie, d'être présent à soi-même. Voilà, un haïku, pour moi, ça représente toutes ces choses.
Alors, deux petites choses que j'aurais voulu, sur lesquelles j'aurais voulu échanger avec vous avant qu'on se sépare. Là, le roman est publié, donc c'est toujours le décalage pour un écrivain de venir parler d'un roman qui est nouveau pour nous, mais qui est clôturé depuis un certain temps pour vous, alors qu'en général, il y en a un autre en chantier.
Oui, alors oui, tout à fait. J'ai eu de la chance, donc à travers mon parcours éditorial, de rencontrer donc la maison Slatkin & Company, qui a édité Bleu Calypso, mais qui m'a aussi j'ai signé un contrat pour deux autres romans. Donc Bleu Calypso va s'intégrer dans le cadre d'une trilogie, donc il y en aura deux autres, dont un deuxième qui est en cours d'écriture et qui paraîtra en janvier 2020. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai la chance aussi d'avoir intéressé aussi Pocket, donc, qui est une maison d'édition de poche. Et ça permettra justement, quand le second opus sortira en janvier 2020, Bleu Calypso sortira en poche à ce moment-là.
Voilà, il
y aura une deuxième vie, il y aura une synergie qui va se mettre en place. Et effectivement, je suis en cours d'écriture du deuxième. Donc, ce sera aussi une enquête policière. On va retrouver les mêmes personnages que dans Bleu Calypso. Mais ça sera, bien sûr, c'est pas une suite. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire le deuxième avant le premier. Par contre, il y a une histoire qui perdure et qui se développe, qui va se développer dans ces trois ouvrages. Donc, notamment l'histoire d'amitié, d'amour, on ne sait pas, entre tous ces personnages.
Ah ben le Bleu Calypso se termine sur quelqu'un qui frappe à une porte, il s'agit,
on sait pas ce qui va
mais ce n'est pas dit clairement, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ?
Et qu'est-ce qui va se passer, on ne le sait pas encore.
Toutes les
moi
portes...
je le sais un petit peu, mais
je
ne sais pas tout encore, ils me surprennent encore tous les jours.
On se doute qu'il va se passer des choses.
Ouais, tout à fait.
Et puis alors, l'autre chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est les remerciements que vous avez mis à la fin. Alors c'est une figure classique, le remerciement, à votre mère, aux gens qui vous entourent. Mais il y avait, dans tous les paragraphes de remerciements, il y a le dernier que j'ai trouvé tout à fait intéressant, si je puis dire. Donc je vais juste le lire, et puis si vous voulez le commenter. « Merci enfin à vous, et vous, Amy Angras, qui avez lu ce livre, qui peut-être en parlerait autour de vous. Vous faites partie de ce voyage, vous en êtes même le maillon essentiel. Savez-vous que c'est à vous que je pense quand j'écris ? Vous êtes mon cap. »
Ben oui. Ben oui, parce que quelqu'un qui se targue d'écrire et qui n'a pas de lecteur, c'est quelque part...
C'est un peu frustrant.
C'est un peu frustrant et c'est un acte un peu vain. Donc oui, effectivement, moi je pense constamment, quand j'écris, à la personne qui va peut-être le lire. Et c'est un lien que je dresse donc, à travers des pages, à travers de l'encre, avec quelqu'un que je ne connais pas, ou que je connaîtrai peut-être, ou que je ne connaîtrai peut-être jamais, d'ailleurs. Mais c'est une façon aussi d'échanger aussi avec des gens, comme on le fait depuis tout à l'heure, tous les deux. Donc, on s'est rencontrés aussi quelque part grâce à ce livre.
Tout à fait.
Et, c'est tout l'intérêt...
Alors que nous habitons la même commune.
Tout à fait, ouais, ouais. C'est tout l'intérêt de la littérature.
Alors, vous allez pouvoir rencontrer des lecteurs à la prochaine Comédie du Livre. Hein.
Oui.
On peut annoncer que vous y serez.
Oui, j'y serai, ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà. Et puis, on attend avec une certaine impatience le deuxième opus.
Voilà, je serai aussi invité au festival Méditerranée Polar qui a lieu à Port-Barcarès au mois de juin. Voilà, donc,
Port-Barcarès au mois de juin.
Tout à fait, j'ai plus les dates en tête, je crois que c'est à la mi-juin, donc ça dure 3 jours. Voilà, donc il y a plusieurs événements comme ça auxquels j'aurai le grand bonheur d'assister.
Voilà, et puis j'ai envie de dire vraiment, sincèrement, un roman que je recommande à nos éditeurs, donc Bleu Calypso de Charles Aubert, aux éditions Slatkin et compagnie. Vous passerez un bon moment de lecture et peut-être vous aurez envie d'aller taquiner le loup, de lire des haïkus, que sais-je, ou tout simplement d'aller vous promener autour des étangs de Villeneuve, et enfin, du sud de Montpellier, il n'y a pas que Villeneuve.
Bah, c'est tout ce que je vous souhaite.
Hein, des étangs très littéraires, parenthèse. Il y avait un auteur régional, Gaston Bessette, qui avait écrit sur l'étang de l'or. Voilà, alors ça a changé depuis. Mais là, c'est les étangs d'aujourd'hui. Allez y faire un tour. Il n'y a pas trop de moustiques, pas tant que ça.
À cette époque, il y en avait un peu. À cette époque, pour l'instant, ça va.
Ça va. En plein été, peut-être ce sera un peu plus gênant.
Ça sera peut-être un peu plus compliqué.
Voilà. Merci Charles Aubert.
Merci à vous.
Voilà. Et puis, nous allons passer, vous pouvez rester avec nous, nous allons juste donner quelques dates à nos auditeurs à noter sur votre agenda. Alors, rapidement, quelques dates à noter sur votre agenda. Peut-être ça vous intéressera, Charles Aubert. Le mois de mars, c'est le mois de la poésie. Hein, c'est le printemps des poètes. Ça va être le lancement du printemps des poètes. Ça va se passer à la maison de la poésie Jean Joubert, le 9 mars à 18h. Voilà. Et puis, les librairies qu'on aime bien et qui font vous proposent des choses. Tenez, la librairie Fière de Lettres. Ça, c'est le 8 mars. Hein. Alors, j'espère que vous écoutez l'émission à temps pour pouvoir y aller. Il s'agira de bande dessinée. Ce sera Claire Dupont qui présentera sa bande dessinée Camel Joe. Et puis, la Géosphère. La Géosphère va vous, le 9 mars aussi, à 19h30, vous permettra de découvrir un auteur qui vient du Guatemala, Rodrigo Rey Rosa. Dont le dernier roman est publié chez un éditeur marseillais, Latinoir, dirigé par René Aubergy. Dernier roman qui s'appelle Severina. Et puis, quelques nouvelles aussi en lien avec le FIRN, le Festival International du Roman Noir de Frontignan, qui aura lieu, on le précise au passage, les 28, 29 et 30 juin à Frontignan. Le thème de cette année, addiction. Alors, addiction à la littérature, notamment au roman noir, certainement. Et puis, il y a les plus de firnes, hein, des événements comme ça au cours de l'année qui tournent autour du roman noir. Donc là, c'est la nouvelle librairie sétoise, le 8 mars à 19h, qui accueillera Sophie Enaf, qui est autour de son dernier roman, Arts et décès, chez Albin Michel. Le précédent avait eu un certain succès, il s'appelait Poulet grillé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information à vous donner? Ça, c'était les plus urgentes. Alors, d'autres informations? J'ai encore un petit peu de temps? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Vous savez que c'est cette année, c'est les 80 ans de la retirada. Hein, de la retirada, donc le moment où tous les réfugiés ont franchi la frontière espagnole à l'issue de la guerre d'Espagne dans des conditions assez dramatiques. Donc la région célèbre un peu, commémore, je vais dire plutôt, parce qu'il n'y a peut-être pas matière de se célébrer, de se réjouir. Il y aura à l'Opéra Comédie, le dimanche 17 à 17h, une manifestation qui associera littérature et musique autour de la retirada, et c'est pas cher, vous réservez vos places sur le site de l'orchestre, c'est 5 euros uniquement. Donc, vous voyez, tarif unique, 5 euros. Vous pourrez aller à l'opéra pour pas cher. Et quoi d'autre? Allez, ça c'est moins à la bourre, si je puis dire. Fier de l'être, le 17 mars à 15h, vous proposera une rencontre, une animation pour les jeunes, les 6-12 ans. Enfant, l'égalité, c'est quoi? Donc il y aura une animation qui amènera les enfants à débattre de ça. Les adultes sont accueillis, mais c'est surtout destiné aux enfants. Et puis la géosphère, on parlait de haïku, ça vous intéressera peut-être. Ça c'est le 15 mars à 19h30, la librairie La Géosphère, donc, qui est derrière le musée Fabre, organise une soirée consacrée aux contes japonais.
Ah ben c'est parfait.
Voilà, donc vous auriez peut-être faire un petit tour. Voilà pour les actualités, l'agenda de cette semaine. Merci Charles Aubert d'avoir nous avoir accordé quelques minutes de votre temps.
Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Et puis bonne lecture à nos auditeurs avec Bleu Calypso, mais vous pouvez lire plein d'autres choses. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec de nouvelles découvertes. Nous recevrons un éditeur occitan. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.